Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Après une longue absence due à Purim, Baruch HaShem, et du Tioul, effectivement. Et voilà, et donc, Baruch HaShem, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Quoi, on dirait que t'es pressé de quelque chose? Moi j'étais large, hein. On a terminé le Shlishi. On arrive dans le Revi. Exactement. Alors, les amis, donc on revient dans le livre de Shemot. Nous sommes au chapitre Yud-Tet, verset Aleph. C'est le Revi de la paracha de Yitro. Et pour ceux qui auraient des Chumashim blancs, eh bien, ça se trouve à la page 85. Mais vu que ça change selon les Chumashim, eh bien, on s'en fiche. Ok. Exactement. Ok, alors c'est parti. Bon, évidemment, chapitre Yud-Tet met en place, eh bien, les événements du Mahamad Ar-Sinaï. On met en place ici les événements du Mont Sinaï. Voilà, ça y est, c'est parti. Bachodesh Ashelishi, le Tzet Bene Israël Me'eretz Mitzrayim, Bayom Haze, Baou Midbar Sinaï. Nous, donc on est quand? 3 mois après la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire, on est sorti en Nissan, Iyar, Sivan. Alors
Tammuz.
Ah, oui, mais c'est un problème. Parce que on est censé avoir le Mahamad Ar-Sinaï quand? Le 6 Sivan. Donc comment faire? On dit Bachodesh Ashelishi, le Tzet Bene Israël Meretz Mitzrayim. Est-ce que ça veut dire que c'est 3 mois plus tard? Non. C'est le 3e mois par rapport à la sortie d'Égypte. Nissan étant le 1er mois, le 2e mois c'est Iyar, le 3e mois c'est Sivan. Donc ici ça ne veut pas dire que ça fait 3 mois qu'on est sorti d'Égypte. C'est le 3e mois compte tenu de la sortie d'Égypte qui a fixé le calendrier. D'accord? Donc, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. סיכון? לפרומי מועד של מועד ניסן. לפרומי מועד של מועד ניסן. לא נראה לו תרוע זה מועד. נמצא דרך, הוא נקל ראש חודש סיוון. Ok, on est Rosh Chodesh Sivan. Comment on sait? Parce qu'il y a marqué Bayom Azé. Et vu qu'on t'a dit il y a 2 secondes qu'il s'agissait du Bachodesh Hashelishi, quand on te parle Stam Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Donc on est le premier du mois de Sivan et on vient d'arriver au pied du mont Sinaï. On ne revient pas dans notre débat de savoir où c'est le mont Sinaï. J'ai vérifié pour l'occasion. Parce que je ne me rappelais plus combien il y avait d'avis qui avaient été émis par les différents chercheurs. On est aujourd'hui à 8. On est à 8 avis différents de où c'est Ar-Sinaï. 8 dans le Rav Google.
Mais parmi les 8, il y en a qui sont...
Il y en a qui sont beaucoup plus... Il y en a qui sont absolument... Et il y en a qui sont assez plausibles, probables, même si chacun... ont des contre-arguments.
Il existe un Mont Sinaï qui est tout dans la péninsule.
Bah, il existe forcément un Mont Sinaï, c'est sûr. Maintenant, où est-ce qu'il est? C'est toute la question. C'est-à-dire, on va dire que les deux avis les plus probables, bien qu'ils ne soient pas du tout à côté l'un de l'autre, enfin, il y en a 3. Il y en a un qui voit le Mont Sinaï dans le désert du Sinaï, okay, dans ce qui aujourd'hui est appelé par le... comment dire... Nous, le Minzar, le... Hein? Comment tu dis? Non, ouais, c'est le monastère de Santa Catarina, de Sainte Catherine. Les moines. Les moines, j'ai pas entendu. Donc ça, c'est un des avis qui mettrait donc le Ar-Sinaï dans le sud de la péninsule du Sinaï. Ouais, mais tu veux vérifier quoi? Tu veux vérifier une montagne? Non, alors dans les fouilles, c'est vrai que là-bas, il y a un afflux important... de culte. C'est-à-dire que c'est un endroit qui, dans l'histoire, proche et moins proche de l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est un endroit qui était cultuel. Ensuite, vous avez le mont Karkoum, qui se trouve dans le désert du Negev actuel, à côté plus ou moins de... pour vous donner un repère, on est plus ou moins sur la même ligne que Yotvata, pas très loin de Eilat, mais plus au centre du désert du Negev. C'est une autre possibilité. Ou alors, comme tu dis, comme tu aimes à le dire, plus du côté de l'Arabie Saoudite, qui est Midian de l'époque.
C'est-à-dire ? En juin 1964, je suis parti avec un groupe de Paris, donc en Israël, et on a
vous avez été là-bas.
Des marches pendant une heure, ça monte vers le Mont Sinaï, et on arrive au sommet du Mont Sinaï, et c'est à plomb. Hein, c'est à...
Oui, si c'est ça le Mont Sinaï, sinon tu as fait un beau tioul. Non ? Vous avez ça là ?
Si c'est ça le Mont Sinaï,
il y a toute une série de.
Si c'est ça le Mont Sinaï, c'est la cavode. Sinon, c'est un beau tioul.
Si c'est ça le Mont Sinaï, c'est oui. Qu'ils sont entrés en Israël avant.
Ah non, ah ben non, ça dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Parce que lorsque tu appelles Israël, j'ai besoin, avant de te dire ah non, en fait c'est moi qui ai été un peu précipité, à quoi tu fais référence. Parce que si tu fais référence à ce qu'on appelle dans le livre de Bereshit, Haaretz Azot, ça c'est sûr, mais ça dans tous les cas, c'est-à-dire quel que soit l'avis qu'on va trancher, c'est dans les gvoulot, dans les frontières de ce qu'on appelle Haaretz Hazot, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est-à-dire depuis le Nil, le delta du Nil, jusqu'à l'Euphrate. Quelle que soit notre visu du Har Sinaï, c'est dedans. Par contre, si tu fais référence à Eretz Kenaan, ce qu'on appelle la terre de Canaan, qui est une autre promesse que Dieu a faite à Abraham, eh bien, à ce moment-là, quelle que soit la localisation, elle est Bachout, puisque la frontière sud de Eretz Kenaan passe plus ou moins, on va faire une ligne imaginaire entre Beersheba et Dimona, un petit peu plus au sud. Mais dans tous les cas, on est en dessous. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas Eretz Israël, enfin du moins, ce n'est pas Eretz Kenaan, mais c'est dans tous les cas, Haaretz Hazot. Mais ce n'est pas ça qui est tellement important. En vérité, lo kol kach hashuv, pour une raison très simple, c'est que ce qui est important dans le Mont Sinaï, c'est que ça soit Bamidbar. C'est-à-dire que ce soit le Midbar que nous on appelle aujourd'hui Sinaï, ou que ce soit plus dans la région de l'Arabie Saoudite qui s'appelait à l'époque Midian, qui a son lot également de problématiques, parce que si effectivement c'était là-bas, et que donc c'est à Midian, il n'y a aucune raison que Moshe, quand il propose à Yitro de rester avec lui, eh bien il dit non, je vais retourner El Arzi, dans mon pays. Si Har Sinaï, là où se passent les événements, c'est à Midian, ben, il n'a pas besoin de dire non, je vais retourner dans mon pays, puisque c'est déjà son pays. Mais dans tous les cas, l'homme est chané. J'ai aucun bon argument pour dire c'est celui-là, et j'ai aucun mauvais argument pour dire c'est pas celui-là.
Par rapport au temps de marche, il y a quelque chose qui est plus positif.
Si tu dis que c'est à Midian, c'est un problème par rapport au temps de marche. Mais si tu dis que c'est dans le Sinaï, c'est un problème par rapport à Moshe qui était Be'ar Chorev quand il était berger avec Yitro. Puisque d'après la Massorette, l'endroit où il y a eu le dévoilement au buisson, c'est l'endroit du Har Sinaï. Or, Moshe, il était à Midian à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est Moshe qui a beaucoup marché ? Est-ce que c'est Bnei Israël qui ont beaucoup marché ? Lo Hashuv. La vérité, on va dire, on ne rentre pas dans le débat, parce que personne n'a de bons arguments. Enfin, tout le monde a de bons arguments, mais pas assez bons pour dire, c'est sûr, c'est là.
Moi, j'en ai un.
Mais on sait que tu veux le voir là-bas.
Non, pas du tout.
Non ?
Ceux qui vont aujourd'hui
oui.
Penser que c'est à tel endroit,
oui.
Je préfère croire ceux qui ont vécu il y a très longtemps, qui eux savaient.
C'est qui les eux en question ?
Ben, Flavius Joseph, il le dit clairement.
Ouais, mais alors là, le problème,
c'était, c'était connu à l'époque, il n'y avait pas connu.
J'entends bien, mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de choses qui, depuis, ont été remises en cause chez Flavius Joseph.
Non, mais... dire que tout est remis en cause.
Non, c'est pour ça que je te dis. L'avis pour Midian est aussi légitime que d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas de psak halakha. On ne peut pas être sûr. A priori, c'est un des deux. C'est soit Santa Catarina, soit Nueva. Ce n'est pas très clair. Vous savez quoi ? on n'a qu'à faire des tioulim et là-bas, et là-bas. Kol Beseder, ça fera plus d'argent pour le guide. Maintenant, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que ce soit dans le désert, nous dit la Torah Tmima, parce que la Torah, il faut être efker comme le désert pour pouvoir la recevoir. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que justement, ce n'est pas très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute la pyrotechnique qu'on va voir maintenant pour le dévoilement au Sinaï était évidemment extrêmement importante. Mais quand on est parti du Har-Sinaï, c'est redevenu une montagne. Au niveau de la Halakha, il n'y a aucune Kedusha aujourd'hui dans le Har-Sinaï, qu'il soit là ou là. Alors que le mont Moria, ça c'est autre chose. C'est-à-dire ? Donc, justement, pourquoi est-ce que la tradition juive n'a pas mis énormément d'accent sur l'endroit du mont Sinaï? Parce que c'est l'homme à Cheikh Hachou.
C'est drôle quand même que l'endroit où Hachem s'est dévoilé, il n'y a pas, il ne reste pas une trace.
Parce que c'est justement ce que je viens de te dire, ce n'est pas l'endroit où il devrait se dévoiler. Qui je suis moi pour dire ça? Ce n'est pas moi, c'est lui qui a dit qu'il voulait se dévoiler à un autre endroit. Donc, il s'est dévoilé dans le désert pour plein de raisons qu'on va évoquer, mais... L'endroit idéal du dévoilement, c'est Har Moria, sur le mont Moria, au Beit HaMikdash. C'est-à-dire ? Donc, quoi qu'il en soit, on arrive là-bas, Rosh Chodesh Sivan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Où Moshe alla el Elohim. Moshe est monté vers Dieu. Alors, il est... où est-ce qu'il a été ? Ah, tu dis qu'il a été sur la montagne. Donc, pour toi, Dieu, il est sur la montagne. Oui, mais
il est descendu. Il est monté, peut-être.
Quoi,
où il est descendu?
Dieu est descendu sur la montagne.
Attends, je ne suis pas encore là. Là, il y a juste marqué où Moshe a là et là Elohim.
Le problème, c'est comment Moshe peut être monté. Comment Moshe est monté vers Dieu alors que Dieu se trouve à des milliards de kilomètres de la Terre?
Non.
Les amis, je pense que vous avez. Il faut que tu arrêtes de penser que Dieu, il est dans le monde physique. Il n'est pas à des milliards de kilomètres, parce que si tu commences à calculer la distance Terre-Dieu, tu vas forcément te tromper.
Tu es d'accord que Dieu contient tout l'univers?
Dieu, il n'est pas dans le monde physique. Il se dévoile dans le monde physique, mais il n'est pas limité au physique. Donc, il n'est pas, tu ne peux pas distancer en kilométrage la distance qui me sépare à Dieu. C'est une distance qui n'est pas chiffrable. Donc, la question n'est pas de savoir à combien de kilomètres il est. Il peut être là, comme il peut être là-bas, zélo méchané. Mais ici, on ne nous dit pas que Moshe est monté sur la montagne. On dit qu'il est monté vers Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est sûr qu'il n'est pas monté sur la montagne à ce moment-là? Parce que, un, ben on va nous dire plus tard qu'il va monter sur la montagne. Et deuxièmement, parce que s'il était sur la montagne, Dieu n'a pas besoin de l'appeler depuis la montagne, s'il y est. Or, la suite du verset, où Moshe a la el Elohim, va yikra elav Hashem mina. Donc ça veut dire que pour l'instant, Moshe, il est monté nulle part en termes physiques. Il n'a pas, ça veut dire quoi, monté vers Dieu.
Il est monté partiellement.
Évidemment, il n'est pas monté partiellement, il est monté spirituellement. On n'est pas encore dans la montée physique. Elle va venir, la montée physique. Bien sûr qu'il va monter sur la montagne. Mais pas encore.
Personne n'est monté encore.
Pour l'instant, personne n'est encore monté. Ça va venir, il va monter. Ça va être dit clairement.
On parle.
Moi, je suis pas très d'accord avec ça.
Pourquoi pas?
Parce qu'on nous parle d'une montagne.
Bien sûr, mais il va y monter sur la montagne.
On lui dit qu'Hachem l'appelle
de la montagne. Donc ça veut dire que lui, il n'y est pas encore.
On utilise le mot monta.
Oui, mais pas vers la montagne. Or, ça va venir. Il y aura marqué.
On va dire qu'après, il va venir.
Non, tu n'as pas compris. Tu ne veux pas m'écouter. Il y a d'abord un moment où il va monter pour ensuite redescendre.
C'est la première montée, ça.
Oui, mais là, ce n'est pas une montée physique. On va le voir dans quelques minutes. On va nous dire qu'il va monter physiquement. Et on ne nous aura pas dit qu'il serait redescendu entre-temps. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi ça vous dérange. Pendant toute l'année qu'on va siéger au mont Sinaï, Dieu il va se dévoiler à Moshe et il ne va plus monter nulle part. Là, il y a une montée vers le concept que Dieu veut lui parler. Oui.
Moi, j'ai une question là. Pourquoi ce n'est pas le même nom de Dieu aux deux endroits?
Pourquoi
faire Elohim?
Non.
Et c'est Hachem qui lui parle.
Deux secondes. Parce qu'il y a la façon dont Moshe perçoit le divin, il y a la façon dont le divin veut se dévoiler à Moshe.
D'accord, Hachem, Yud-Kevavke, il est déjà dévoilé à Moshe.
Et bien, semble-t-il que Moshe, il n'a pas encore intégré cela. D'accord. De son point de vue, où Olé, elle a Elohim, mais Hachem, il lui parle.
D'accord.
Ça donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. Alors, on est en train de poser les bases de la Torah. À qui Moshe doit parler ? La maison de Yaakov, et ensuite aux enfants d'Israël. C'est qui l'un, c'est qui l'autre ? Nous disent nos sages, Beth Yaakov, ce sont les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kotomar, les morts, Zemilachon, Raka. C'est gentiment. Taged, Livne Israël, Lehagid, c'est plus dur. Et Beth Israël, Bene Israël, ça fait Taged, Livne Israël, Bene Israël, ce sont les hommes. Entre eux.
Quand on avait vu au début que Moshe va parler en Égypte, hein, au Bnei Israël, on a vu que c'était les responsables.
Et alors ?
Quel la problème ? Différence du peuple.
Oui, ben là, ça peut être aussi les responsables.
Mais le problème, il a toujours été appelé maison de Yaakov, Beit Yaakov, le peuple.
Où tu vois ça ?
Dans tout le Tanakh, c'est une
mais là, c'est la première fois.
Non, qui désigne le peuple.
Oui, mais là, c'est la première fois. Donc, tu ne peux pas encore me dire maintenant, on a déjà vu que.
Non, mais de dire que c'est les femmes.
Oui.
Pour quelle raison ?
Ah, pour la raison que c'est comme ça la tradition orale qu'on a reçue. Tout simplement. Quand Omar le Beit Yaakov, Zéaneshim. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Je n'ai pas de preuve marquée noir sur blanc que c'est les Nashim. C'est comme ça la tradition du peuple juif. Maintenant, ce qui est intéressant, nous dit le Kli Yakar va nous dire, c'est ne crois pas que Moshe a été parlé aux femmes et ensuite il a été parlé aux hommes. Non, non, Moshe a été parlé aux femmes, a expliqué tout ce que Dieu lui a dit aux femmes, et les femmes, Beit Yaakov, ont été dire à leur mari. Vetaged livne Israël, ce sont les femmes, Beit Yaakov, qui elles-mêmes ont été transmettre la Torah aux hommes d'Israël. Tu as raison, c'est la raison pour laquelle Sarah Schneider, lorsqu'elle a créé en 1916 le premier Beit Yaakov, elle l'a appelé comme ça.
Quelles femmes dans ce cas ?
Les femmes d'Israël.
Toutes les femmes.
Toutes les femmes, bah, certainement. Non, tu comprends bien que.
On a une population.
Mais non, mais enfin, c'est évident qu'il n'a pas fait un rassemblement, allez, toutes les femmes, mégaphone et tout ça. Bien sûr que de la même façon qu'il y a des représentants chez les hommes, eh bien, il y avait aussi des femmes dirigeantes. Ça peut être les chefs de tribu, les femmes du chef de tribu, et ainsi de suite. Ça peut être Myriam qui a rassemblé ses copines. Je ne sais pas exactement qui, mais c'est évident que de la même façon que quand Moshe s'adresse à Israël, eh bien, il ne s'adresse pas à 3 millions de personnes en même temps, qui parle d'abord, sauf dans des cas où c'est spécifiquement marqué, mais sinon, Barour qui va parler d'abord des représentants qui après vont transmettre. Ce n'est pas un problème, ça. On n'a pas besoin que ce soit à toutes les femmes et enfants et jeunes filles d'Israël. Oui ? Ah, alors, pourquoi est-ce qu'il parle aux femmes d'abord et ensuite aux hommes ? Eh bien, pour la simple raison que... Vas-y, dis-moi.
Je sais pas, moi j'avais pensé à un truc, mais je sais pas du tout.
Vas-y, dis-moi.
J'avais pensé que comme Adam, il a... Je sais pas, c'était...
Il a fauté, que Chava n'a pas fauté.
Il y a mal dit ce qu'il fallait faire. Il a dit, tu toucheras pas, alors que c'était pas ce que Adam a dit. Alors, je pense que la faute aussi, ça a entraîné la faute. Donc, il passe plutôt par les femmes...
Si, c'est plus sûr.
Oui.
C'est plus sûr.
Non, c'est pas.
Si on revient en Égypte, si on revient à ce qui s'est passé en Égypte, eh bien, les femmes d'Israël ont un mérite énorme parce que c'est elles qui ont amené leur mari à continuer à faire des enfants juifs. Hein ? Pas seulement Myriam. C'est-à-dire Myriam et toutes les femmes d'Israël. Et c'est ce qu'on va nous expliquer lorsque dans le Mishkan, les femmes vont apporter leurs bijoux. Alors qu'il n'y aura plus besoin d'apporter, mais on va quand même continuer à apporter. Moshe voulait ne plus accepter de dons, et Dieu lui a dit, c'est dans les parachutes qu'on va lire maintenant, de Vayakel et Pekoudé, que Dieu lui dit à Moshe, accepte-les. Parce que, voilà, c'est grâce à ces marot at soveot, c'est grâce à ces miroirs que les femmes se faisaient belles pour aller attiser l'envie chez leur mari, pour continuer à mettre en place le peuple juif en Égypte. Ici, cette Torah, elle doit être donnée au peuple d'Israël, celles qui ont eu le mérite d'être, celles qui ont permis la création du peuple d'Israël, c'est les femmes d'Israël, plus que les hommes, donc c'est à elles qu'on va enseigner la Torah en premier lieu. C'est-à-dire ? Donc, « Kotomar levet Yaakov, vetaged livne Israël ». Alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire ? אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et je vais vous faire voler sur des ailes d'aigle, et vous amènerai vers moi. Ve'ata.
C'est le futur, là.
Hein?
C'est le futur.
Pourquoi tu dis c'est au passé?
Je vous ai.
Pourquoi tu dis je vous ai?
Non, c'est au futur, c'est au futur.
J'ai pas compris. Quel est le problème? Atem reitem, c'est au passé. Vous avez vu. Quel? Atem reitem, Asher Asiti le Mitzrayim. Ce que j'ai fait à l'Égypte, et ensuite il y a marqué va et ça.
Et je vous porterai sur les ailes de l'aigle.
Va et ça.
Oui.
Et ça, c'est le futur. Oui.
Le va demain.
Alors, est-ce que ici c'est un va conversif?
Oui.
Ah oui. Toi, t'as dit. Tu sais que des fois c'est un va conversif, mais, des fois non.
Mais si je dis, je dois avoir une raison pour laquelle je te dis. Donc, je vais te la dire. Alors, ils sont arrivés là où
Dieu les a portés.
Là où Dieu, ils sont allés à la destination.
Oui, donc, j'ai bien compris. Mais alors quand est-ce qu'il les a portés sur des ailes d'aigle?
Depuis la sortie d'Égypte.
Donc c'est ça que tu appelles les ailes d'aigle. Ça, ce que tu dis va tout à fait dans le sens de ce que va dire Rabbi Ovadia Sforno. D'un autre côté, Achisconi, Paramban, ils disent que c'est pas un vav conversif, que c'est un vav de liaison.
C'est au futur.
Et donc c'est au futur.
Je vous porterai.
Je vous porterai.
Et vous emmenerez à moi.
Voilà.
Ils sont déjà arrivés à lui. Ils
donc, c'est la première fois que tu vois une prophétie qui parle aussi de l'avenir. C'est pas un problème, ça. C'est-à-dire, ça peut être comme tu dis, ça peut être comme ils disent. C'est un colbe cédère. Dieu nous a amenés vers lui et Dieu nous amènera encore vers lui. Ma baya, aderaba, c'est encore mieux. Maintenant, ve'atem, ve'ata, c'est quoi? Ve'ata, et maintenant, im shamo atishmeu bekoli. Ushmartem et Beriti, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, veitem li segula mikol ha'amim ki li kol ha'aretz. Vous serez pour moi une segula.
L'alliance, c'est.
C'est quoi l'alliance? Bah, c'est quoi l'alliance? Pour l'instant, il y a quoi comme alliance?
Et vous garderez mon alliance.
C'est quoi l'alliance qu'on a avec Dieu? On n'a pas 36, hein?
C'est le Brit.
Britamila.
Britamila,
hein?
Les femmes, elles n'ont pas le.
D'accord, mais elles sont des mamans qui ont des fils.
Oui, ah, d'accord, c'est pareil. C'est,
on est tous ensemble dans l'histoire.
D'accord.
Ok.
Une petite question rapide.
Oui.
Je veux savoir si c'est sérieux. On dit qu'il y a des midrashim.
La Torah, c'est sérieux.
Il y a des midrashim qui disent que Dieu n'a pas de femme avec une voix douce.
Ah oui, ça tient
de l'existence. C'est ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Mais quel est le problème? D'abord, ce n'est pas Dieu qui a parlé aux femmes, c'est Moshe qui a parlé aux femmes.
Dommage.
Hein?
Dommage.
De quoi?
Mais c'est pas Dieu.
Ah, bah oui, ben voilà, je peux pas refaire le match. On a déjà assez de problèmes avec ce qui est marqué, tu veux pas que j'invente des nouveaux psukim. Bekitso, donc on doit être Ségoula. Mais c'est Ségoula.
Un remède, non?
Un remède.
Ségoula, c'est un.
Alors rien à voir avec les sgoulottes.
Ouais,
absolument rien à voir. C'est
un trésor.
Un trésor. Otsar Chaviv. C'est-à-dire, c'est, on est quoi? On est Ségoula Mikol Ha'amim. C'est-à-dire qu'on est un peu de tous. En fait, si tu prends toutes les blagues, vous connaissez les blagues? Ouais. Un Français, un Belge et un Américain sur un bateau. Tu prends toutes ces blagues-là de trucs, tu mets tout dans un mixeur, ça va te sortir un juif. C'est-à-dire, ou plus sérieusement, nous dit le livre de Yeheskel, « Atem kruim Adam, ve'en umot ha'olam kruim Adam. » C'est-à-dire, vous êtes appelé Adam et les nations ne sont pas Adam. Ça veut dire. C'est-à-dire que nous sommes les héritiers de l'identité de Adam. Nous portons en nous cette identité commune qui doit être l'identité globale de l'humanité. Alors que les nations ne sont plus à Adam, à Shalem, ils sont une partie d'eux. Donc, Am Israël devient, si tu veux, le musée, les vestiges de ce qui était l'identité de l'unité de l'humanité. Donc, nous serons Segula Mikol Ha'amim. Alors, très bien. Maintenant, ça, c'est le projet. Voilà ce que Dieu a dit à Moshe. Va'atem ti'uli mamlechet.
Il faut faire des nations.
Il est. Va'atem ti'uli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Elle adevarim asher tedaber el bene Israël. Nous devons être également un royaume de kohanim, de prêtres, et une nation sainte. Vous connaissez, dans le peuple juif, il y a des kohanim. ces Kohanim font le lien entre qui et qui ? Entre Dieu et le peuple juif. Donc, ça veut dire que si nous, on doit devenir de manière globale un peuple, un royaume de Kohanim, c'est que le but du peuple juif est de faire le lien entre Dieu et les nations du monde. Nous avons un rôle de trait d'union. Nous ne sommes pas supérieurs, comme le Kohen n'est pas supérieur au Israël. Il est là pour faire la jonction entre les deux. Ok ? Donc notre rôle est évidemment de ne pas garder Dieu pour nous, mais de pouvoir dévoiler Dieu à toutes les nations. Pour cela, il faut être Goy Kadosh. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne s'agit pas de dévoiler Dieu à chaque individu chez les nations, ça aussi, mais ce n'est pas le rôle du peuple juif. Le rôle du peuple juif en tant que tel, c'est de montrer que dans la dimension collective, on peut être également lié à Dieu et le dévoiler. C'est-à-dire, si je devais schématiser, je dirais que le rôle des religions, c'est d'apprendre aux individus comment s'attacher au divin. Certaines arrivent mieux à le faire que d'autres. Le rôle du peuple juif, c'est d'apprendre aux nations de s'attacher à Dieu.
Mais ça passe aussi par l'individu qui doit devenir aussi un...
C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Dans le peuple juif, il y a le peuple juif et il y a monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin, il peut faire des cours sur Internet, machin, pour apprendre à chacun comment, au niveau individuel, à se comporter bien. Mais Am Israël, il doit avoir une voix en tant que tel. Par exemple, c'est qui va porter la voix du Am Israël dans le monde ? Ben, c'est le chef d'État du peuple juif. C'est à lui d'apporter la parole au monde entier.
Mais il faut qu'il soit dans la Torah. Et...
Ah ben, s'il veut expliquer ce que la Torah a enseigné dans sa relation à Dieu, il faut qu'il connaisse deux, trois choses. C'est évident.
Oui. C'est dommage. C'est pas le cas aujourd'hui.
Bah, c'est dommage qu'il ne le fasse pas assez.
Il a raté les occasions.
C'est dommage qu'il ne le fasse pas assez. On ne peut pas dire qu'il ne le fait pas du tout. Il le fait plus que beaucoup d'autres chefs d'État avant lui.
J'ai écouté à l'ONU, chaque fois qu'il était à l'ONU, il a parlé de l'âme d'Israël, de son héritage, etc. Mais quand tu as parlé de la chaîne, on dirait qu'il y a un petit problème.
Il y a beaucoup à rajouter et à refaire, mais on notera tout de même certaines citations du Tanakh sur les bancs de l'ONU. En général, ce sont des versets où il n'y a pas marqué le nom de Dieu, mais ce sont des versets du Tanakh quand même. C'est-à-dire, on se rappellera de Menachem Begin lorsqu'il fait son discours lors de la paix avec l'Égypte. Il citera que viendra un temps où il n'y aura plus de peuple qui lèvera l'épée contre un autre peuple. Les paroles de Ishayahu Hanavi. Mais évidemment que ce n'est pas fait assez. Et évidemment que ce n'est pas fait de manière officielle. Il faut à un moment donné se lever et dire « Koh Amar Hashem ». D'accord. Bon, ben, Bezrat Hashem.
Oui.
C'est dommage. Quoi ? Mais évidemment que c'est dommage, mais on ne peut pas perdre espoir. Et à un moment donné...
Non, on ne perd pas d'espoir, mais on perd beaucoup de temps.
C'est vrai qu'on perd du temps.
Parce que s'il avait osé dire...
Que n'a pas le monde musulman. Le monde musulman, il n'a pas de réticence à se
revendiquer.
Mais c'est ça. Il faut arrêter d'avoir honte.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se... Donc, en d'autres termes, vous dites qu'il faut arrêter de se prendre pour des Occidentaux.
Oui, il faut que les politiques aussi, on voit la Cour suprême, je vois pas quelqu'un qui peut représenter dans la Cour suprême.
Mais qui t'a demandé que la Cour suprême le représente ?
Non, mais
la Cour suprême, elle n'a pas de rôle. La Cour suprême, une colle à cavode, elle doit, Bezrat Hashem, très bientôt disparaître. Attention, comme je suis filmé, je vais continuer ma phrase. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un état de droit. Bien sûr qu'il faut avoir un état de droit. Raboteille, je vais essayer de finir ma phrase, parce que sinon, je ne sais pas comment ça va être pris, évidemment. Il est évident qu'on doit avoir un état de droit, bien sûr, sans aucun doute, et que la justice doit être rendue, et il faut une organisation qui soit là pour contrôler la justice dans ce pays, bien évidemment. Ce rôle-là doit être tenu par le Sanhédrin, et non pas par la Cour suprême, parce que, d'après moi, l'idéal du judaïsme, c'est, au niveau de la justice, le Mishpat HaIvri. Je précise tout de même, parce que lorsque je dis ça, les gens qui sont des gens qui aiment faire des polémiques, eh bien diront, eh ben voilà, Rav Etan Fizon, il a dit, il est pour une Medinat Halakha, pour un état de la Halakha. Et en disant cela, eh bien les gens veulent nous faire penser que ceux qui disent Medinat Halakha, ce sont des gens qui veulent lapider tous les gens qui prennent la voiture Shabbat dans les rues, aux yeux et au gré de tous. Alors, le problème, c'est que les gens parlent et ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce qui changerait si demain, on faisait une Medinat Halakha dans la vie de tous les jours? Vous savez ce qui changerait? Rien du tout. Shum davar. Pour la simple raison que Alpi Halakha, Yefchar l'iskol, shum mechalel Shabbat. On ne peut tuer aucun mechalel Shabbat. D'ailleurs, ça n'a jamais été fait, à part deux fois où ça a été fait contre la Halakha. Pour la simple raison que d'après la Halakha, pour réunir tous les critères qu'il faudrait pour condamner quelqu'un à mort, pas que pour Shabbat, hein, mais pour tous les sujets dans lesquels la Torah elle dit Chayav Mita, pour réunir tous les critères, eh ben, faut se lever pas seulement de bonne heure, mais aussi sur la lune. Donc la Torah, à aucun moment, elle pense que quand elle dit Chayav Mita, c'est utilisable. C'est juste pour nous montrer à quel point l'action est importante. Le Shabbat, c'est quelque chose de très important. Maintenant, dans les faits, eh ben, il sera Mechalel Shabbat. C'est malheureux, mais c'est Mayesh. Qu'est-ce qui va changer, par contre, qui est fondamental? C'est que la justice, l'autorité de la justice, tu ne le places pas seulement sur la perception et la compréhension d'un, deux, trois, dix êtres humains, aussi intelligents soient-ils, mais tu la bases sur la transmission de la volonté divine. C'est à col. Maintenant, t'inquiète pas, monsieur qui ne veut pas faire Shabbat, tu pourras continuer à ne pas faire Shabbat tant que tu n'en fais pas une manifestation exprès pour déranger le reste du pays, personne ne va t'embêter. Donc, oui, je suis pour que la haute cour de justice, ce soit le Sanhédrin. Bien évidemment. Mais le Sanhédrin ne veut absolument pas dire qu'on devient des ayatollahs et qu'on ne laisse plus la liberté de chacun. Je rappelle que le judaïsme croit au libre arbitre et donc à la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Après, il devra rendre des comptes. S'il a fait des torts à son prochain, ben il devra rendre des comptes à son prochain. S'il s'est fait des torts à lui-même, il devra se rendre des comptes à lui-même. Et s'il a fait des torts à Dieu, ben il s'arrangera avec Dieu.
De toute façon, on le dit dans l'histoire que le Sanhédrin, il n'a jamais été ayatollah.
Ben évidemment, évidemment. Donc ce n'est pas un problème, il n'y a pas de risque à avoir. Maintenant, donc ça veut dire que, est-ce que je suis pour que la Torah, elle puisse s'exprimer? Bien sûr. Et est-ce que je trouve que... Donc, non, ça pourrait dire que, c'est même, de toute façon, ce n'est pas le Sanhédrin qui doit porter la parole au monde entier. C'est le représentant du peuple. Après, une fois que les gens du monde ont été émerveillés par la parole du représentant du Ham Israël, et ils décident de venir ici pour apprendre la Torah, alors il ira voir le Sanhédrin. Ça va pas? Donc, tout ça, ça se passe le premier Sivan. Ok? Pour l'instant, Moshe, il a été voir personne. Là, c'est juste le programme qui lui a été donné par Dieu. Donc, Moshe, maintenant, qu'est-ce qu'il se fait? Vayavo Moshe, vayikra lezikne ha'am. Ha! Moshe est venu et il a appelé zikne ha'am. Tu vois bien, pour l'instant, on ne nous dit pas qu'il est descendu de quoi que ce soit. Il est venu. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément voir sa première montée comme une montée physique. Là, il est venu. Et on ne dit pas qu'il est descendu.
Pourquoi le mot « montée » est utilisé là?
Parce que je te rappelle que « montée » dans le Tanakh, ça peut être aussi largement utilisé par une montée spirituelle.
On est d'accord.
Donc,
là, c'est la première fois. Jusqu'ici, Hachem lui parle, Moshe répond. Et là, tout d'un coup, il est question de la montée.
Dafka. Il y a, oui, un autre moment où il y a fait question de l'alot leola et l'objectif n'était pas justement de le monter physiquement.
Non, c'est pas la même chose.
Ah, pourquoi pas? Ah bon?
L'alot, c'est faire monter les holocaustes.
Mais pas encore. On n'a pas encore le livre de Vayikra. Quand on nous dit va aller ou sham leola, est-ce que c'était une montée spirituelle ou une montée physique?
Tu parles des...
De Yitzhak, Yitzhak Avinu.
Quand
Dieu il a dit à Abraham, va aller au Sham Leola.
Parce que c'est l'expression qui est utilisée pour les.
Plus tard. Là, l'expression, c'est la halot.
Bon, là, ici.
Non, mais à l'époque d'Abraham, il n'y a pas encore les corbanotes. On ne nous a pas encore fait la liste des corbanotes du livre de Vaïkra. Donc, quand Dieu il dit à Abraham, Ta'aleu oto leola, qu'est-ce qu'Abraham il doit comprendre? Est-ce qu'il doit comprendre une montée physique ou est-ce qu'il doit comprendre une montée spirituelle?
La'ola, l'holocauste qu'on appelle l'holocauste,
oui.
C'est toujours l'expression montée, mais je suis, l'accompagne.
Tu veux exprès de ne pas m'écouter ou quoi? Je suis d'accord avec toi.
Bon,
je dis juste que ça n'a pas encore été donné, ça. Le concept de Korban Ola n'apparaîtra que dans le livre de Vaïkra. À l'époque d'Abraham, je pose la question. On n'a pas encore vu de Ola à l'époque d'Abraham.
Depuis ce livre, c'est pas Vaïkra, c'est depuis Shemot.
De quoi?
La montée des
Ola. Oui, tu as raison. Mais dans tous les cas, c'est pas à partir de Bereshit. Donc ce que je veux dire, c'est que quand Dieu il s'adresse à Abraham, comment Abraham il doit comprendre? Va aller au Sham Leola, est-ce qu'il comprend le faire monter spirituellement ou le faire monter physiquement? Ce que je veux dire, c'est que dans les deux, ce terme était égal pour les deux dimensions. Il faudra voir simplement dans le contexte, est-ce que là il s'agit d'une montée spirituelle ou matérielle ou les deux? Ça peut être les deux également. Donc là, simplement, Moshe vient voir les Bnei Israël et leur transmet la parole. Quand est-ce qu'il fait ça? Eh bien, nous dit le Talmud et le Midrash qu'il n'a pas fait ça le jour même. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle « Khulsha de Urcha ». Ils viennent de marcher longtemps, ils viennent de poser le campement. Quand Moshe, il a fini de recevoir le Wi-Fi de Dieu, il s'est dit « Ils ne sont pas capables, ils sont trop fatigués maintenant pour entendre le programme. » Donc, il les a laissés dormir et demain matin, il a réuni tout le monde et il leur a dit tout le programme. À ce moment-là, ça veut dire qu'il leur a dit tout ça « Bet Besivan », le 2 Sivan. Ce qui explique la raison pour laquelle le Ham Israël y fait le pont. Vous connaissez le concept du pont en France? Hein, très populaire. Eh bien, il y a le pont, le 2 Sivan. Parce que je vous rappelle que Rosh Chodesh Sivan, on ne fait pas Tachanoun. Parce que c'est Rosh Chodesh. Ensuite, le 3, le 4 et le 5, on ne fait pas Tachanoun parce que c'est ce qu'on appelle Shoshet Yemei Agbala, les trois jours de préparation au dévoilement. Mais pourquoi on ne fait pas Tachanoun le 2?
Les 12 premiers jours, on ne dit pas les...
Mais pourquoi?
Parce qu'ils se sont préparés pour le Corban.
Mais les amis, je vous demande, avant d'avoir déjà dans vos têtes le contre-argument, d'écouter d'abord l'argument. Tu me dis, ils se sont préparés pour le Corban. Eze Corban Barosh Shelcha. Pour l'instant, ils se sont préparés à recevoir le dévoilement divin. Mais cette préparation, elle est trois jours. Or, si le dévoilement divin, il est le 6, eh bien, le 5, le 4 et le 3, trois jours avant, on se prépare. Donc, pour ça, on ne fait pas Tachanoun. Le premier, on ne fait pas Tachanoun parce que c'est Rosh Chodesh. La question est, pourquoi on ne fait pas Tachanoun le 2? Pour ce qui est du 7, 8, 9, 10, 11 et 12, c'est ce qu'on appelle Yemei Atashlumim. C'est parce que ce sont les journées après Shavuot où on peut encore pendant 6 jours amener le Korban Chagiga. C'est-à-dire Yemei Tashlumim. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun. Mais il n'y a pas de raison de ne pas faire le 2. Il y a fait. Donc maintenant tu comprends pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun le 2. Ce n'est pas qu'on fait le pont. C'est parce que c'est le jour où a été dévoilé au peuple juif que Anachnu Amzgula. Et ça, ça vaut le coup de ne pas faire Tachanoun. Ok? Ok, super, c'est bon, c'est parti. Dieu a, Moshe a donné le programme au Bnei Israël. Ben, c'est génial, on peut y aller. Vayanu kol ha'am yardav. Donc là, tu vois que c'est plus seulement les anciens qui ont répondu, c'est tout le peuple. Ils ont tout expliqué au Bnei Israël. Et donc, tout le peuple, comme un seul homme, est venu voir Moshe. Et ils ont dit, Vayomeru kol asher diber Hashem na'ase. Tout ce que Dieu dit, on va faire. En d'autres termes, pas ce que toi, tu dis. On n'est pas prêt à écouter ce que toi, tu dis.
Deuxième fois qu'ils lui disent ça.
Pourquoi? C'est quoi la première?
Ils n'ont pas déjà dit ça en Égypte?
Non.
Je me souviens que tu avais déjà évoqué quelque chose.
En Égypte, ils étaient pas, ils disent Dieu, il m'a envoyé, machin. Il dit, bah, prouve-le. En Égypte, ils ont dit, prouve-le. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des signes.
Il n'y a pas eu une fois avant?
Là, c'est là, c'est là. C'est là où ils disent, tu veux qu'on t'écoute, tu dis que tu viens au nom de Dieu, Non.
C'est pas une baisse de confiance en Moshe quand il leur dit ça.
C'est extrêmement important qu'ils disent ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer grâce à la non-confiance aveugle des Béné Israël? S'ils avaient accepté ce que Moshe il a dit, tu sais ce qui serait passé?
C'est Moshe qui devient Dieu.
Non, pas forcément, mais il n'y aurait pas eu le dévoilement de Dieu. Et ils disent tout ce que Dieu il dit, on va faire. Parce que toi tu dis. Parce que toi tu dis. On n'est pas prêt à t'écouter toi. Si jamais Dieu il veut nous parler, qu'il vienne nous parler. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter comme preuve du dévoilement un intermédiaire. Oui, parce que l'enfant, il sait que maman, des fois, elle dit des choses. Sauf que là, le Ham Israël, on lui dit « Yudke Vavke », il se dévoile. On n'a jamais vu ça. Donc, s'il veut se dévoiler, qu'il vienne se dévoiler à nous.
C'est ça que ça veut dire, ça?
Ben, évidemment. Tu serais prête, toi, à accepter du jour au lendemain 613 mitzvot parce que quelqu'un t'a dit de le faire au nom de quelqu'un d'autre?
C'est pas du jour au lendemain, parce qu'ils ont tout quand même un vécu.
Shum Dava. Depuis Abraham, on ne nous a jamais parlé de la Torah. C'est la première fois qu'on nous parle du concept qui va s'appeler Torah.
Mais pourtant, ils étudiaient la Torah.
Shum Davar, ils étudiaient la tradition d'Israël. Ce n'était pas du tout la Torah. Il y avait la Brit Mila, si tu veux. Il y avait Guida Naché, si tu veux. Mais c'était la tradition de leur famille. Donc, il ne s'agit pas du tout de la Torah.
Oui, mais
la
Pardon ? J'ai pas bien compris, Moshe, il leur dit quoi? Ils leur disent que
Hachem lui dit. Nahon, tu as raison. Mais nous, on connaît le film. Et on sait que...
C'est comme si on ne connaît pas le film.
Oui, mais nous, on connaît le film. Et n'oublie pas que lorsque les Bnei Israël reçoivent le Pentateuque, ils connaissent aussi le film. C'est-à-dire qu'on sait qu'au final, c'est ce qui va se passer. Dieu, il va donner la Torah. Maintenant, cette Torah, moi, je veux bien, mais pour que j'accepte que Dieu, il me... Enfin, pour que j'accepte de me soumettre à la Torah, il faut que ça vienne de Dieu. Il ne faut pas que ça vienne de Moshe. Qui me dit que ça ne vient pas de Moshe? Tu dis, ils ont étudié Hachem Ve'ever. Yaakov, à la limite. Mais là-bas, on n'enseignait pas Ilchot Mamrim. On enseignait là-bas la tradition de du dévoilement. C'est-à-dire, mais ça, les Bnei Israël, ils ne l'ont pas vécu. Donc ils disent, moi, je veux bien, mais à condition qu'ils me parlent. Comment je sais que c'est exactement ce qu'ils disent? Ben, c'est la suite du verset, oui.
Oui, c'est une précision. Le verbe de Moshe, les morts, les âmes d'Israël. Et là, c'est Kol âme d'Israël. Il y a une nuance.
Mais un nom Kol âme, tu dis?
Oui, Kol.
Ah oui, c'est tout le peuple.
C'est quoi le peuple? Parce que est-ce que le peuple, c'est les Rémois?
Tout le monde.
Plus.
Tout le monde.
Plus les Bnei Israël.
Pour l'instant, c'est tout le monde. Kol âme. Ok? Maintenant, les Bnei Israël, donc ils disent, on veut bien que lui il vienne, pas toi. Comment je sais que c'est la vérité? Bah, parce que c'est la suite du verset, tout simplement. Ils disent, Va'amru kol asher diber Hashem naase, va'yomer, va'yashev Moshe divrei ha'am el Hashem. Donc, Moshe, il a rapporté les paroles du peuple à Dieu, et il leur a dit, ils ne veulent pas, ils veulent toi. Réponse de Dieu, va'yomer Hashem el Moshe. Ah ben super! Ine anochi ba elecha be'a ve'anan ba'avur yishma'am bedabri imar ve'gam be'chaya minu le'olam. La preuve que ce que j'ai dit c'était vraiment ça qu'il demandait, c'est que c'est ça la réponse de Dieu. Il dit bah très bien, donc dis-leur, je viens. Et ils vont m'entendre. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont demandé.
Hein?
Et ils vont m'entendre te parler. Alors, effectivement, je vais continuer là-dessus. Mais ça veut dire qu'ils voulaient effectivement entendre Dieu. Après, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ça, c'est un autre débat. Mais ils veulent entendre Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'ils veulent le dévoilement. Ils ne sont pas prêts à accepter comme preuve du dévoilement un intermédiaire. Pourquoi? Eh bien, parce que accepter l'idée que le Créateur du monde parle, tant qu'il ne m'a pas parlé, ce n'est pas acceptable. Parce que ça n'existe pas que le Créateur se dévoile à la créature jusqu'à présent. À part dans certains cas où celui à qui il y a eu le dévoilement, il n'est plus là pour témoigner. dans le Maboul, dans le déluge, il y a eu un sacré dévoilement. Mais tous ceux qui ont vu ce dévoilement ne sont plus là. Et celui qui a survécu, il n'a pas vu le dévoilement, il était dans la boîte. Pareil pour les Égyptiens, qui ont vu le dévoilement des Kriat Yam Souf. Ils ne sont plus là pour en parler. Pareil pour les Diplés. Donc on a besoin, maintenant, d'un véritable dévoilement sans intermédiaire.
Mais là, quand tu dis, quand ils ont traversé, les Égyptiens, ils ont vu le dévoilement et ils n'ont pas vécu.
Non. Nahon, exactement. C'est pour ça que nos sages nous disent que Ra'ata Shifra Alayam, on a vu ce que, dans la mer ce que n'a pas vu le prophète Ézéchiel, seulement juste après, amnésie collective. C'est-à-dire que la Shifra, elle est redevenue Shifra, et Yreskel, il est resté Yreskel à Navi. Donc c'est quelque chose qui était un pic d'un moment, on n'a pas su comment le gérer. Et donc on veut un véritable dévoilement.
Une petite question rapide, oui. En traduction avec le fait que quand Dieu a voulu leur donner la tour Sinaï, ils avaient peur que Dieu leur parle directement.
Non, c'est pas que avant qu'ils. Une fois que Dieu leur a parlé, ils ont eu peur qu'il continue. Oui. Tu m'étonnes, Dieu qui parle, c'est autre chose. Ça, on va y venir. Donc ça veut dire que Bnei Israël ne sont pas prêts à accepter comme preuve du dévoilement autre chose que le dévoilement lui-même. Ok ? Parce que, encore une fois, le dévoilement au Mont Sinaï, c'est ce que nous explique le livre du Kuzari, que la seule preuve véritable du dévoilement ne peut être que le dévoilement lui-même. Pour la simple raison que c'est quelque chose qui, tant qu'il ne s'est pas passé, n'est pas inventable. De dire que le créateur parle à la créature, s'il ne l'a pas fait, tu ne peux pas l'inventer. Parce que dans notre univers, la notion de création est étrangère aux lois de la physique. Dans la physique, on te dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La notion de création ex nihilo est un concept étranger à la science moderne. Par contre, c'est le concept de base du judaïsme, que Dieu a créé. Pour que maintenant Dieu se dévoile, eh bien, ça ne peut pas passer par autre chose que le dévoilement lui-même. Donc, c'est ce qu'ils disent les Bnei Israël. On est prêt à accepter si c'est lui qui vient. Et donc, le projet de Aseret HaDibrot, c'est de cristalliser dans le cœur, le cerveau, l'être tout entier du peuple juif, que Dieu parle. À qui ? D'abord, qui parle. Et ensuite, il va parler à Moshe. Et le but du jeu, c'est qu'on entende ce qu'ils disent à Moshe. Pourquoi ? Il dit le Rambam, pour que lorsque, après, Moshe vienne nous dire, bon, voilà, Dieu, il a dit 1, 2, 3, les Israël, ils disent, ouais, nakhon. Effectivement, c'est vrai, tu ne nous mens pas. Et à ce moment-là, il y a marqué, Vegam Becha Yaminu Leolam. Il y avait déjà marqué, au moment de Shirat Hayam, Vayaminu Ba Hashem Uve Moshe Avdo. Il dit le Rambam, dans le Chot Yisodé à Torah, que quand ils ont dit Va'aminu Ba'Hashem ou Moshe Avdo, c'était une émouna qu'effectivement, Dieu il peut nous sortir d'Égypte. Mais ce n'est pas une émouna à fond. C'est émouna, on peut douter après. Et surtout de Moshe, on peut douter.
C'est pas vécu, quoi.
Voilà. Alors que là, Vegam Becha Ya'aminu Le'olam.
Est-ce qu'on peut surtout dire que c'est une émouna basée sur ce qui est dit? C'est-à-dire,
oui.
Moshe, il va dire aux gens, mais les gens, comment vont-ils, sur quoi vont-ils s'appuyer pour dire que c'est sûr?
Bah parce qu'ils ont entendu.
Voilà.
Exactement.
Parce que le dévoilement, ils l'ont eu. Là, il s'agit des paroles.
C'est-à-dire que là, ils savent que ce n'est pas des blagues.
L'enseignement.
Là, c'est des paroles, je m'excuse, c'est peut-être idiot ce que je veux dire, mais c'est des paroles avec des mots. Mm-hmm. Oui, ce n'est pas genre, on a compris ce qu'il veut dire. C'est vraiment des mots. Il a dit des mots. En
bah,
hybride.
Oui.
Oui, en
bah, hybride. On va les lire, les 10 commandements. On va les lire.
Voilà.
D'accord, c'est un dévoilement. C'est pas.
C'est pas une perception.
C'est pas une perception, c'est pas un chamboulement des lois de la nature, c'est Dieu qui parle. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui parle? Je peux pas te dire.
Non.
Je l'ai pas vécu, donc je peux pas te dire.
Si, on l'a vécu.
Oui, oui, oui.
Non?
Oui, certainement, au niveau de Maneshama. Je me souviens pas.
Maintenant, on
ne
l'a pas vécu comme
ça. Voilà, donc dans notre conscience, on ne s'en souvient pas.
Mais c'est en nous.
Peut-être. La prochaine fois qu'il nous parlera, la prochaine fois qu'il te parlera, tu me diras si tu as une impression de déjà vu. C'est pas drôle, c'est vrai.
Je demanderai demain.
C'est... Pourquoi tu demanderas? À qui tu demanderas?
À lui.
J'ai pas compris.
Je parle tous les jours.
Oui, mais lui, il te parle tous les jours.
Il
te parle.
Il me répond.
Il te répond.
Oui. Enfin, il me répond dans la.
Non, parce que.
Dans ma vie.
Il y a une mahlaka dans un hôpital à l'entrée de Jérusalem qui s'occupe de gens comme ça, qui pensent que Dieu leur parle.
Oui.
Je ne sais pas si tu as vraiment envie d'aller là-bas. Je ne sais pas si tu as envie d'aller là-bas.
Pour rencontrer les
gens. Voilà. Les amis. Les
collègues.
Peut-être que tu es en train, ici ce soir, de te dévoiler aux millions d'internautes en tant que prophétesse.
Et c'est la mort, si elle dit.
Non, après, non, si tu te revendiques comme prophétesse, on va commencer à vérifier.
Non, mais franchement, ici à Jérusalem, enfin nous, ça fait que 2 ans et demi qu'on a fait notre avion.
Oui.
Mais je sens une proximité avec Hachem.
C'est pas la question, est-ce que Dieu te parle?
Il me répond dans...
Dieu, il te répond, il te dit, t'as vu comment ça va?
Il me répond, mais il me répond.
Il te parle ou il te parle pas?
Il me répond dans les choses concrètes.
Il te répond rien du tout, tu as une perception et tu as envie de voir la main de Dieu dans ce qui t'entoure.
Je vois la main de Dieu.
Mais il a fait, c'est toi qui vois.
Mais... Non, mais c'est sûr.
Dieu, il t'a parlé? Dieu, il t'a parlé?
J'ai pas envie d'aller.
Ça doit exister quand même.
Non, ça n'existe pas pour l'instant. La prophétie, pour l'instant, elle n'est pas revenue. Malas, il n'a pas encore ramené la prophétie. Ça viendra.
C'est quoi ce pour dire ça?
Ben que c'est où? Il n'y a pas encore de prophétie.
Sur
quoi on se base? Qu'il n'y a personne qui s'est révélé comme prophète. Malas.
Et la personne, elle ne va pas dire « Je suis prophète ».
Ben alors sinon, ça ne sert à rien qu'elle soit prophète.
Elle va dire des choses.
Si.
Il faut que ces choses se réalisent.
Ah, ça s'appelle se révéler comme prophète.
Il faut que ces choses se réalisent aussi.
C'est-à-dire, pour que quelqu'un il puisse prétendre au titre de prophète, il faut d'abord et avant tout qu'il dise « Ko amar Hashem ». Dieu m'a dit 1, 2, 3, 4, 5. Si tu commences à faire ça, alors tu nous intéresses et on va commencer à vérifier. On va d'abord te... Hein?
Sur quelle base?
Ah bah, sur les bases qui sont mentionnées dans la halakha. Quoi? Quel est ton problème?
Mon problème, c'est que quand on sait que, comment, il y a eu des prophètes qui n'ont pas été reconnus, qui ont été persécutés et même tués.
Qui?
En Israël.
Qui?
Qui? Il y en a eu plusieurs. Esaïe, il y a eu...
Il n'était pas reconnu?
Il y a eu Jérémie.
Attends, il n'était pas reconnu?
Par les gens?
Il était reconnu à fond? Par tout le monde, ils ne l'ont pas écouté, c'est autre chose. Mais il était reconnu comme prophète, même par les rois qui l'ont massacré. Quand Ménaché, il tue Yishayahu Anavi, son grand-père d'ailleurs. Là, je parle de Yishayahu. Tu vois, après on parlera d'Irmiyahu. Ça a l'air. Mais quand il tue Yishayahu Anavi, qu'il le met dans un tronc et qu'il le scie, ça a l'air. Il sait que c'est un prophète. Oui, il sait que c'est un prophète, mais il n'a pas envie d'écouter. Pareil pour Irmiyahu, quand il se fait jeter dans la prison par Tzidkiyahu, personne ne remet en cause que Irmiyahu, c'est un prophète. Personne.
Il y a eu, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est venu contredire Irmiyahu.
Tu parles de Hanania ben Azur.
Oui.
Oui.
Enfin, je pense que c'est lui.
Je pense aussi.
Alors, lui, il passait pour le vrai prophète et Irmiyahu pour le faux.
C'était son but à Hanania, de faire passer Irmiyahu pour le faux.
Oui, ils l'ont cru.
Ils l'ont cru. Tu sais pourquoi? Parce que nous dit le Talmud qu'à la base, Hanania ben Azur, c'était Nevi Emet, au début.
Ouais.
Et puis après, il a décidé de partir en cacahuète.
Ouais. Mais je veux dire, là, c'est
un exemple. Non, mais c'est pas pareil. Il était Nevi Emet, et il a voulu, après, se servir de son statut pour ses intérêts.
Ouais.
Et donc, les gens, ils l'ont cru, parce qu'au débat, il était reconnu comme un vrai. Donc, si après, il est parti en cacahuète, ben, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce que des gens n'ont pas écouté le prophète qu'il n'était pas reconnu comme prophète.
Non, là, c'était pas la question d'écouter ce qu'il dit, mais le fait de le reconnaître en tant que le prophète.
Non, il n'y a pas le prophète. À l'époque de la prophétie, il y a plein de prophètes.
Oui, mais je te comprends.
Et Jérémie, il est reconnu par le peuple juif comme étant Navi, et Hanania, il est reconnu comme étant Navi. Parce que les deux, ils sont au départ Navi. Le problème, c'est que Hanania ben Azur, à un moment donné, pour des raisons politiques, il veut faire penser que Jérémie, c'est un menteur, pour que lui, son avis, soit mis en avant.
Et ils l'ont cru.
Ben ça va. Mais ce que je dis, mais il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont une base sur laquelle se baser. Le fait est qu'au départ, Hanania ben Azur, ce n'était pas un menteur. Il avait été reconnu par, en l'occurrence Jérémie, comme étant un vrai prophète. Ce que je veux te dire, c'est que quand quelqu'un est de Navi, il est reconnu comme tel ou pas.
Là, c'était pas. Ils n'ont pas reconnu.
Mais non, ils ont pas. Mais pas du tout. C'est faux. Excuse-moi. Ils ont. C'est pas parce que.
Il a réussi à leur faire croire.
Mais ça n'empêche qu'ils pensaient quand même que c'était un prophète. Je ne suis pas d'accord que lorsque tu me dis que finalement ils ont accepté l'avis de Hanania et ils ont donc balancé Jérémie dans le trou pour ne pas l'écouter et ils ont préféré écouter l'autre, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là ils pensaient que ce n'était plus un prophète. Ils pensaient que c'était toujours un prophète, mais ils ne voulaient pas entendre lui, ils voulaient entendre l'autre. C'est la colle. Maintenant, il y en a plein des prophètes qui n'ont pas été écoutés.
Herzl,
ce n'était pas un prophète. Le prophète n'est pas quelqu'un qui dit l'avenir. Ça, c'est Madame Irma.
Non, d'accord, c'est pas l'avenir.
Maintenant, des fois elle a raison, des fois elle a tort.
Le Rav Kook non plus.
Le Rav Kook n'est pas non plus un prophète.
Quand même, il voit loin.
Ah, il voit très très loin, c'est évident. Il a une vision qui est beaucoup plus aiguë que la mienne, c'est évident. Ça s'appelle Ruach HaKodesh. Effectivement, le Rav Kook, il va dire de lui-même qu'il ressent les premières bribes de quelque chose qui ressemble à la prophétie. Mais, c'est Odlo Nevoa. Navi, ce n'est pas quelqu'un qui parle à Dieu, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Et c'est très différent. Maintenant, nous tous, on parle à Dieu 3 fois par jour, mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous parle. C'est-à-dire qu'on ait envie de voir son dévoilement au quotidien par Baruch HaShem, mais c'est uniquement parce qu'on est des bons religieux. Et qu'on, bien sûr, et qu'on. Mais, si.
Non, c'est peut-être parce qu'on voit son dévoilement.
Si tu me permets de finir ma phrase, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. Là. C'est parce qu'on est des bons religieux qui avons été éduqués par la culture judéo-chrétienne qui nous a expliqué qu'il y avait un dévoilement de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que tu sois quelqu'un qui a grandi à Mea-Shearim ou comme moi qui a grandi à Metz, pas dans un cadre religieux, il n'empêche que culturellement parlant, j'ai grandi dans une ambiance, que ce soit au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau sociétal, que Dieu a créé le monde et que Dieu s'y dévoile. Des fois, c'est le rabbin qui a dit ça. Maintenant, comme j'ai grandi dans cet environnement-là, eh bien, lorsque je vois des choses qui sont des concours de circonstances ou des choses magnifiques, eh bien, tout de suite, j'ai envie de le rattacher à Kadosh Baruch. C'est Yefemeod, je suis pour, c'est très bien, moi aussi je le fais. Mais ce n'est pas cela que s'appelle ni la prophétie, ni le dévoilement sans intermédiaire. C'est-à-dire,
c'est une communication quand même.
C'est une intuition que j'ai qui est due à mon éducation, qu'elle soit directe ou indirecte.
Donc c'est imaginatif.
Exactement. Exactement. Ben, c'est grave. Des fois, c'est faux.
C'est grave. De dire
ben, c'est pas grave, c'est
non,
une réalité.
C'est grave, c'est...
On se base sur ce qu'on a reçu de nos maîtres et de nos pères. Nos parents, nos grands-parents, et ainsi de suite, non, qui nous permettent de nous attacher à. Hein?
Alors, c'est pas le Hémet.
Des fois, on peut se tromper, tout à fait. Des fois, non. Mais des fois, on peut se tromper. Des fois, on pense que c'est le dévoilement de Dieu, alors que c'est juste une éclipse lunaire. Ça peut arriver aussi. Il y a eu plein de gens qui ont pensé qu'il y a eu des phénomènes météorologiques, ils ont dit c'est la main de Dieu, alors que finalement, c'était à Olam Keminago Noël, seulement tu n'avais pas les Kélim pour le dévoiler. Et donc toi, tu es en train de dire, Dieu se dévoile de manière naturelle. C'est l'air, mais ce n'est pas la névoie. C'est tout ce que je dis. Que Dieu, il gère son monde, c'est une évidence. Bien sûr que Dieu, il gère le monde à chaque instant. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu, il parle à chaque instant. C'est-à-dire? Et le jour où il te parlera, t'inquiète pas, tu le sauras. Non, mais merde. C'est-à-dire que quand tu es Navi, tu es Navi. Alors effectivement, il y a un petit moment pas sympa à passer, c'est le moment où on doit authentifier ta prophétie. Effectivement, ça demande une petite vérification alchatique, ça demande qu'on aille vérifier ton compte en banque, ça demande qu'on vérifie si tu es Gibora, si tu es Chachama, donc on te fait un test de culture générale, et après cela, on demande de nous donner soit un miracle, soit une prédiction d'avenir. Et si tout s'avère comme étant véritable, eh bien, à ce moment-là, on peut te considérer comme prophète et donc on va devoir écouter ce que tu dis au nom de Dieu. Si il manque une des caractéristiques, eh bien, tu seras mise à mort.
Et pourquoi le compte en banque ?
Ah, parce que « En anevoa shora ela al-chacham gibor ve'ashir » et « kva koma » également. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs critères pour pouvoir « bichlal » prétendre être éligible à la névoie. Ces critères-là sont une indépendance totale dans tous les domaines de la vie humaine. Pour que tu ne sois pas quelqu'un qui se rattache au spirituel en détachement de ce monde-ci. Donc il faut que tu sois d'abord intelligent, sois pas un teubé. Il faut que tu sois quelqu'un qui arrive à gérer tes pulsions, parce que comme tout être humain, tu as des pulsions, mais il faut être capable de les diriger. Et il faut que tu sois quelqu'un qui, dans ce monde-ci, soit quelqu'un qui est indépendant dans ce monde, c'est-à-dire au niveau financier. Il faut également que tu sois quelqu'un qui en impose au niveau de ta stature.
Ce côté financier, bancaire, on ne voit pas ça dans le Tanakh. Il y a des prophètes qui ont eu besoin d'être assistés par quelqu'un d'autre,
qui?
D'être aidés.
Qui?
Ben, Elisha.
Oui.
Il a été accueilli, logé, nourri.
Qui t'a dit qu'il avait besoin?
Il avait besoin puisqu'il était là. Il a été accueilli.
Logé, il a été accueilli, ça ne veut pas dire qu'il avait besoin. Je t'invite à regarder tout ce qui se passe chez les rabbins aujourd'hui qui ne sont pas prophètes. Mais qui, lorsqu'ils arrivent quelque part, on leur fait un kavod gadol, on leur donne un meilleur chant, on leur donne un deux. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont besoin. Mais c'est parce qu'on a envie de faire du kavod. Cette femme, qui est une femme extraordinaire là-bas, qui veut s'attacher des services d'Elisha. Elle veut s'attacher au prophète. Donc elle lui donne un kavod extraordinaire. Et Elisha, il est très content. Mais ça ne veut pas dire que sinon il mourrait de faim.
Non, je n'ai pas dit qu'il mourrait de faim.
Il a fait. Je n'ai pas dit qu'il devait être forcément Rothschild. Mais il doit être.
C'est financier.
Il doit être dans la pleine possession de sa vitalité. Or, le fait d'être quelqu'un qui ne demande pas de la tzedaka, c'est fondamental pour être quelqu'un qui est en possession de ta vitalité. Si tu es constamment en train de demander l'aumône aux gens, eh bien tu as un manque dans ta vie. Ce manque dans ta vie n'est pas propice à la prophétie. La prophétie, c'est Shlemut Achaim.
Parmi les conditions,
oui.
Qu'est-ce que toi tu n'as pas?
Qui t'a dit que j'étais riche d'abord? Peut-être que je suis en minus, peut-être que je suis en rouge. Ah, si je suis en rouge, je dépense plus que je ne gagne.
Non, est-ce que Eliaou avait 200 000?
Ah, ben je sais pas, tu connais son compte en banque?
Tu
connais pas?
Non,
maintenant, est-ce que tu veux me dire que je suis riche? Non, mais Hashem, est-ce que je suis Gibor?
Ce dont tu as besoin,
mais c'est à dire, est-ce que je suis Gibor?
Oui,
je crois pas. Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre sur moi-même. Et pour calmer mes excès de colère avec mes enfants, si tu veux tout savoir sur ma vie.
Et donc
je pense que je ne mérite certainement pas, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, il y a plein d'autres niveaux où je ne mérite pas, hein, t'en fais pas. Mais je pense qu'au niveau de la Gevura, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Au niveau de la Chochma, je suis nul en maths.
Même Moshe, ça me tient en colère.
Alors c'est un surhomme.
Donc, ce côté-là.
Les amis, calmez-vous. Calmez-vous. Mon cher Abenou, il s'est mis en colère une fois. Moi, je me mets en colère une fois par heure. Alors, Seder, venez, calmons-nous. Calmons-nous.
Non.
On ne va pas se comparer à mon cher Abenou.
Calme-toi, tu exagères.
À propos de mon cher ou à propos de moi?
Donc, si un prophète vient te voir et tu dis, j'ai pas de moyens de m'acheter un appartement, tu le croiras pas?
Ah, ça remettra en cause sa capacité à être prophète, bien évidemment. Maintenant, c'est possible que tu sois prophète. Parce qu'au départ, tu avais toutes les qualités qu'il faut, et puis, il s'est passé plein de choses et tu n'es plus au niveau. Ben, semble-t-il qu'à ce moment-là, tu ne profiteras plus.
Pour ce qui est des connaissances, on n'a jamais fini d'apprendre.
Ouais, mais il faut un minimum quand même. Un minimum quand même.
Non,
il y a marqué aussi qu'il faut être gvakoma. Il faut être grand de taille.
Grand de taille.
1m76.
Non, mais attends. Où est-ce que
1m76, qu'est-ce qu'il y a? Et je vais te dire, j'ai un autre truc qui fait que je ne peux pas être prophète. J'ai un autre truc, c'est que j'ai jamais prétendu être prophète.
Mais justement.
Bah, parce que je pense que Dieu ne m'a pas parlé encore.
Mais peut-être que par contre, tu n'écoutes pas toujours.
Je pense que s'il m'avait parlé, je le saurais. C'est-à-dire
peut-être que dimanche prochain, vous avez un
signal que Shmuel ne savait pas que c'est Dieu qui lui parlait.
Certes, mais il avait quand même compris que quelqu'un lui parlait.
Oui.
Bon, ben, je me suis jamais réveillé dans la nuit et on m'a dit « Ethan ». Non, jamais personne ne m'a fait ça. Ou alors si quand on m'a fait ça, j'ai très vite compris que c'était ma femme qui était en train de le faire comme ça. C'est-à-dire, donc c'est pas… Alors tu peux dire « Je prendrai ma femme pour Dieu ». Pas de problème. Peut-être qu'elle sera contente. Donc non, les amis, je ne suis pas prophète. On ne sait pas ce que l'avenir a nous réserve, puisque nous dit le prophète Yoël que viendra un jour où Dieu se révélera et parlera à tout le monde. Peut-être que Bezrat Hashem, hein, on va tous devenir prophètes à un moment donné, mais pour l'instant, j'y suis pas.
Je peux te dire ma conviction, c'est que quand Hashem va te parler, il va te parler.
Ouais.
Il ne va pas amener des conditions dans ta vie. Il va te parler directement.
Oui, mais pour qu'il me parle, il faut que je sois au niveau, qu'il me parle.
Non, mais pourquoi on met toutes ces conditions-là, 1m70, 80
Est-ce que je peux te donner un élément de réponse?
Vas-y, dis-nous.
Hachem, il ne fait pas de différence entre les
hommes. Qui te dit?
Non,
non, il ne fait pas de différence.
Il y a une étude.
Oh, il y a une étude.
Par une de mes profs aux États-Unis, qui est allée voir plein de CEO, de chefs d'entreprise aux États-Unis, et elle avait essayé de corréler les données physiques à la capacité d'être vue comme un leader. Et elle avait vu qu'effectivement, quand tu es petit et gros, tu as moins de chances de peser que quand tu es grand et fin. Elle a dit, on remarque il y a plus de gens qui ont 1m80 et plus parmi les CEO qu'il y en a dans la population normale. Donc ça veut dire que oui, les gens d'un mètre 80 ou plus qui sont fins, on les
sent fins.
Seulement, David Ben-Gourion contredit le pronostic. Voilà, saute. Je te rappelle, non, mais je te parle de Ben-Gourion. Mais enfin, je ne sais pas qui c'est ta prof. Mais enfin bon, ça me paraît complètement un petit peu tiré par les cheveux. Je te rappelle que Napoléon, il n'était pas super grand non plus. Excuse-nous.
Attends, deux secondes. Tu prends ça. Je peux te citer François Ier qui faisait 2 mètres.
Tu l'as vu?
Non, mais j'ai lu.
Non, Stam, j'en sais rien, c'est l'autre à chou.
Napoléon, on
ne
pouvait pas lui dire qu'à toi, tu fais
1m60.
Il a
étudié si tu étais d'accord. Mais c'est un moment. L'homme chané, c'est pas le débat. Il y a Choliot que tu as raison, je te fais marcher.
Les co-animes, on leur demande aussi d'être grand et fort.
Non.
Peut-être pour le balancement, je ne sais pas.
Bah, faut pouvoir le lever la viande.
Les amis, pas shoot.
Il faut avoir une plénitude dans la vitalité. La névoa, le dévoilement de Dieu, passe par des forces de vie qui sont au top. C'est quelque chose qui est audible en termes de compréhension. C'est-à-dire que si on parle du dévoilement de celui qui est la vie, eh bien, ça doit résider dans une vitalité. Les conditions qui sont demandées par la halakha sont en fait tout simplement les conditions d'une vitalité pleine et entière, que ce soit au niveau spirituel, intellectuel, que ce soit au niveau de tes midot, et que ce soit au niveau de ta domination de ce monde. Donc, c'est pour ça qu'on te parle de ces conditions-là. Quelqu'un qui est malade, avec des midot pourries, et qui d'un autre côté fait la manche tout le temps, tu vois qu'il a un problème au niveau de ses forces de vie. Donc, c'est logique que le rapport avec la vie, eh bien, soit problématique. Donc, on te donne ici des critères dans la halakha qui font que simplement mettre en évidence une plénitude de l'être humain en question. Zéakol. Zéakol. Donc, voilà, le programme, oui.
Changer de sujet.
On a déjà pas mal changé de sujet.
Chronologique de ce qui s'est passé. C'est Hachem qui parle à Moshe. Moshe qui répond donc à Hachem. Hachem dit, va au peuple, demande-leur ce qu'ils pensent. Oui, nous sommes d'accord pour t'entendre. Oui, donc une sorte de entre guillemets, de lourdeur. Alors la question que je pose, est-ce que ça va se passer de la même manière lorsqu'il y aura Mashiach donc se réveillera?
Très bonne question, et à cela je répondrai la réponse du Rambam. Afechad, personne ne sait comment ça va être tant que ça ne sera pas. Et dès que ça sera, on saura. C'est-à-dire ? Donc voilà, ça y est, c'est prêt. Dieu, il a dit, je viens vous parler à Kolbe Seder. Seulement, il va falloir une petite préparation pour recevoir la parole de Dieu. Quelle va être cette préparation ? Eh bien, nous verrons la semaine prochaine.